les ces quatre coureurs qui transmettent le témoin. Et je crois me souvenir que Christophe Lemaitre, des fois, était un peu raillé parce qu'il faisait les compétitions interclubs de relais. Et on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire avec ces autres. Voilà. Donc voilà, je trouvais que l'exemple d'Excellent est intéressant, à la fois par rapport à cet athlète, mais aussi le fait que voilà, un relais 4 fois 100 mètres puisse être de niveau excellent. Voilà, il était en Amérique. Donc, voilà, sur l'idée de témoignage, hein, c'est-à-dire à la fois l'axe horizontal, puis un axe plus vertical. Et puis un autre point qui a été abordé par de nombreuses personnes parmi vous, c'est effectivement, alors ça peut être aussi l'un des objectifs qu'on a pu avoir avec Pascal, même s'il n'est pas, il n'était pas explicite dans le document, c'est comment mettre en réseau des acteurs et des systèmes. Hein, ça reprend l'équation insoluble hein, de l'acteur et du système. Alors l'option a été prise d'être plutôt dans un lieu retiré par rapport à Clermont, de ne pas être nombreux, donc, mais en sachant que ce n'est pas la fin hein, de quelque chose, mais c'est l'ouverture vers autre chose. Et par rapport à la mise en réseau des acteurs et des systèmes, donc bah, Laurence et François qui vont échanger, pour moi sont représentatifs. Alors je recite Teilhard de Chardin parce que dans mon institut, on a développé un centre Teilhard de Chardin où on propose entre autres un module corps et spiritualité aux étudiants. Et notamment ce qui nous intéressait chez Teilhard, c'est la façon dont il a essayé de gérer la science et la foi. Avec que ça peut avoir. Et là, vous avez deux. Alors, ce ne sont pas des dignes héritiers de Teilhard de Chardin, ils ne se revendiquent pas en tant que tels, mais ils ont le double défaut d'être universitaires et à l'université de parler de spiritualité, de parler de l'histoire de la religion, et je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Dans un domaine où la science fait foi, hein, de pouvoir exprimer leur foi à travers des discours, alors qui ne sont pas scientifiques au sens où d'autres collègues pourraient le dire, mais qui ont une certaine reconnaissance dans les travaux qu'ils font.
Est-ce que tu me passes la parole?
Et là, je transmets le témoin, donc maintenant.
Le ballon de...
Si tu connais le mode d'emploi, Laurent, tu me le donnes.
Moi, je te passerai de la même façon.
Gilles ne m'a rien donné.
Bien. Je voudrais commencer par une brève présentation qui fait suite à la sympathique présentation qu'a fait Gilles de nous deux, parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir faire un travail qui permet de garder le contact avec les étudiants et, soit dit en passant, une opportunité de parler parfois à des étudiants à qui j'ai l'impression qu'on ne parle plus beaucoup. C'est-à-dire que quand j'arrête de faire le cours parce qu'il y a trop de bruit et que je leur parle d'autre chose, ils sont attentifs. J'ai l'impression que tout ce que je leur dis n'était pas intéressant, mais dès que je leur parle d'eux et de ce qu'ils font là et de leur avenir, vraiment le sentiment qu'on peut créer du lien, on peut créer d'autres choses beaucoup plus importantes. Et j'allais dire presque que leur formation, le fait qu'ils soient dans un amphi avec moi, c'est peut-être une occasion de transmettre un certain nombre de choses, pas que des cours, quoi, hein. Donc voilà. Je n'ai pas trouvé encore les moyens de le formaliser. Je ne suis pas sûre qu'il faille formaliser quoi que ce soit. Et c'est plutôt dans la relation interpersonnelle que les choses se font. Et c'est un petit peu le sens de ce que j'essaye de vivre. Et j'ai peu de temps, j'ai jamais pris le temps de le... Enfin, j'ai rarement pris le temps de le formaliser, c'est-à-dire de le dire à quelqu'un, parce que je m'en occupe pas trop, mais c'est une occasion. Que c'est essentiellement par le témoignage. Mais un témoignage qui ne sera pas forcément oral, qui peut prendre du sens après qu'on se soit connu ou qu'on ait vécu quelque chose ensemble. Et à ce moment-là, si les personnes savent que je suis catholique, ça peut donner du sens à ce qu'ils ont vécu, à ce qu'on a vécu ensemble. Et pour moi, le témoignage, notamment auprès de ceux qui ne sont pas, croyants, me paraît avoir plus d'impact lorsqu'il est découvert par la relation. Donc, c'est très chouette qu'après avoir vécu un stage, on dise « Ah, mais toi, t'en es là, t'es catholique, en fait. » Et je dis « Oui, ça m'anime. » Et quand les gens disent « Si c'est ça qui t'anime, ben, ça me donne envie. » Pour moi, c'est 200% de joie, évidemment. Et c'est sûr que c'est comme ça que j'aimerais transmettre les choses et que les gens soient ensuite dans une démarche beaucoup plus personnelle. Très rapidement, donc j'étais gymnaste à l'Alerte d'Épinal dans les Vosges, dans un club FSCF, et je suis tombée dedans quand j'étais petite. Il y avait un club FFG, Fédération Française de Gym, à côté, et on n'était pas très copains. Et petit à petit, j'ai compris qu'on était une fédération affinitaire, comme elle s'appelle, et que la fédération délégataire était la vraie fédération de gymnastique, et que j'étais tombée dans le mauvais club, en tout cas si je voulais être championne de France. Et que du coup, j'ai après coup, quand j'ai un petit peu analysé l'endroit d'où je venais, c'était le club qui était attaché à la paroisse Notre-Dame, où j'étais enfant de cœur, où mes parents étaient engagés, etc. Donc bon, c'était un peu logique que j'arrive à l'Alerte d'Épinal. Donc ça a pris du sens au fur et à mesure, et je dois dire que c'est à 16 ans, quand j'ai rencontré Gilberte Fraboulet, ça dira peut-être quelque chose à des gens qui étaient de la FSCF, qui étaient secrétaire à la fédération, qui m'a fait découvrir ce qu'on appelle le DFF, le document fédéral fondamental, qui est un petit livre de 85 pages, pas très haut, qui s'appelle « Vers quel homme, par quel chemin », où sont racontées un certain nombre de choses qui ont fait sens pour moi à un âge où forcément on cherche du sens. Donc ça tombait assez bien qu'elle me rencontre, qu'elle me donne cette lecture. Elle m'a offert le livre dans le train. Voilà, comme ça se passe. Et donc, j'ai plus jamais revu cette dame, mais c'est ça qui a déclenché... j'allais dire une adhésion volontaire, et j'ai su pourquoi je restais là. Donc petit à petit, bon, j'étais entraîneur, j'ai eu la chance d'avoir un groupe de poussines, donc c'est les petits de 6 à 10 ans en gymnastique, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à entraîner à l'âge de 11 ans, et la confiance qu'on m'a donnée très tôt, et la prise de responsabilité qu'on m'a offerte, m'a construit de bout en bout, hein, je dirais, autant que l'école et que l'université. Donc, petit à petit, j'ai eu envie de participer au débat, et puis, je ne sais plus comment, c'est arrivé vite finalement, puis c'est passé vite aussi, je suis retrouvée dans des commissions jeunes, etc. Et donc, je suis rentrée au comité directeur de la Fédération sportive culturelle de France en 2002, et actuellement vice-présidente sur un secteur qui est un petit peu, c'est un petit peu le challenge pour moi et pour tout le monde, parce que ce sont des secteurs transversaux. Le développement durable, les missions sociales et solidaires, aujourd'hui c'est santé, solidarité, où il faut, vous pouvez imaginer un petit peu, mobiliser les territoires et les commissions techniques par activité, c'est-à-dire le foot, le tennis, les différentes activités, essayer de les mobiliser de façon transversale sur des choses plus larges. Hein, je dois dire que c'est vraiment ce qui porte mon engagement, c'est... cet aspect global de l'homme. Et je dis souvent à la FSCF qu'il y a peu d'endroits où on voit l'enfant et l'adolescent et l'adulte dans toutes ces dimensions. Parce que notre société sectorise énormément, rationalise tout, et il y a peu d'endroits où on trouve l'homme dans son ensemble. Moi, c'est ce qui me porte beaucoup. Mais c'est aussi bien un handicap, c'est-à-dire dans la manière d'être efficace dans tout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, pour le coup, on ne peut pas être bon non plus partout. Et la FSCF n'a jamais fait le choix, bon, je travaille un petit peu sur l'histoire de la FSCF, n'a jamais fait de choix catégoriel ou catégorique sur les secteurs dont on parlait, sociaux, qui ont découpé la JOC, la JAC, etc., ni non plus sur les secteurs d'activité. Et elle a toujours tout porté, ce qui l'a sans doute handicapé, tout embrassé, de sorte que, à mon avis, elle tient un pari audacieux de voir l'homme dans son ensemble. Et c'est ce qui me... Encore une fois, c'est ce qui me motive. Donc, voilà, un engagement donc au service de l'homme qui peut prendre appui, pour moi, qui prend appui sur la conception, une conception chrétienne. Pas du tout, enfin, pas théologique, à force, j'ai lu un petit peu des choses, mais je ne suis pas une grande spécialiste. On discutait tout à l'heure pour savoir un petit peu qui étaient les gens à la FSCF. Je crois que profondément, il reste, c'est Charles Suau, un sociologue, qui disait un réseau de sociabilité. Pour moi, ça me parle beaucoup. On ne vient pas par hasard quand même à la FSCF. On a un public relativement privilégié de gens qui sont proches de valeurs, d'éducation, d'une forme d'éducation. Les gens sont sensibles à un discours, à des valeurs. J'ai l'impression qu'on est en phase, très largement, même si les niveaux d'implication pour la foi sont différents. Ça se traduit, à mon avis, à la FSCF, par une attention portée au plus grand nombre. C'est la première chose, c'est-à-dire que c'est un sport qui doit permettre... Alors je dis sport, parfois, parce qu'on est dans le milieu du sport, mais c'est aussi sportif et culturel, donc souvent on nous reproche d'oublier le culturel quand on parle, effectivement. Il est aussi moins important en termes d'effectifs. essaie donc de pouvoir faire en sorte que le sport puisse être pratiqué par le plus grand nombre sans discrimination d'aucune sorte, ce qui fait que pour le plus visible, on travaille évidemment, on a noué des partenariats avec la Fédération Handisport, Sport Adapté, mais au quotidien, franchement, on sait très bien qu'il y a des politiques d'accueil dans nos clubs des familles les plus démunies, que chaque club, et ce n'est pas propre à la FLCF, mais que chaque localité, chaque club, vit dans son quotidien un certain nombre de valeurs à travers une politique d'accueil, de solidarité, d'amitié, qui sont réelles. Alors, pourquoi je dis qu'elles sont réelles ? Parce que des personnes qui sont allées ailleurs, parfois, reviennent pour trouver l'ambiance, l'amitié, la chaleur qu'ils ont, l'accueil qu'ils ont trouvé à la FLCF. Et puis, pour des personnes qui sont arrivées à la FLCF et qui ne la connaissaient pas, un certain nombre, dont mon mari, m'ont dit on se sent pas jugé, on est pris comme on est. Ça avait toute son importance. C'était pas grand-chose, mais c'était beaucoup. On est pris comme on est, on n'a pas le sentiment d'être jugé. On vient avec ce qu'on est, et c'est pas comme chez McDo, c'était la pub à un moment. On nous reconnaît pour ce qu'on est et on est bien. Donc je crois que ça a son importance. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce qui est difficile dans les conventions d'objectifs, par exemple, c'est qu'on rationalise mal tout ça. Ça se compte pas bien. Et on nous demande des comptes, on nous demande des résultats, on nous demande des chiffres. Comme moi, je pense, on a la conviction de semer autour de nous sans avoir l'ambition de récolter. Donc, quand on nous demande de récolter, il faut qu'on compte et on est moins bon. Donc, on est moins bon en communication, on est moins bon en récolte. Pourtant, c'est pour ça que je suis intervenue dans ce sens auprès de René Pichon, parce que c'est aussi ce qui m'anime, c'est-à-dire que tout ce qu'on transmet, on ne sait pas où ça va, mais ça part et ça touche. Alors, quand on a des retours, c'est absolument extraordinaire, parce que ça anime encore plus, mais ce n'est pas nécessaire. Quoi. Voilà. Donc, je pense qu'avec la conviction, on peut aller loin comme ça. Cette conviction, ces convictions nous amènent au sport pour tous. Vous avez vu un petit peu, décliné, pas qu'à la FSCF, mais aussi à la FSCF. Et aussi au fait que le sport doit être un moyen d'épanouissement et pas une aliénation pour nos sportifs. Et qu'on veille à l'intégrité de nos sportifs. Donc on a une commission médicale, aujourd'hui une commission santé, bien-être, mieux-être. Qui veille, particulièrement là on s'engage à un petit peu faire le ménage chez nous, qui veille à ce que nos activités ne produisent pas de défauts, pas de défauts, mais de forme d'aliénation, même si le mot est un peu fort à mon avis. Donc on a, par exemple, à l'éveil du tout-petit, une conception sur la pratique des moins de 6 ans qui vise à ne pas spécialiser l'enfant et à interdire les compétitions avant 6 ans. Donc ça, c'est un engagement assez pratique, c'est clair. Pas de compétition avant 6 ans pour éviter d'engager les enfants trop jeunes, les spécialiser, les muscler, leur faire porter des poids au poignet, comme je racontais à Gilles hier soir. Le deuxième aspect de mon intervention porte moins sur la FSCF et plus sur une action que je mène en tant que membre du bureau de l'ANOF, Académie nationale olympique française. Je suis partie grâce à la FSCF qui a présenté ma candidature à Olympie, qui est, comme chacun sait, le temple de l'olympisme, du CIO, une académie qui vise à promouvoir les valeurs de l'olympisme, tant est qu'il y en ait, mais en tout cas, c'est un rassemblement d'à peu près 200 jeunes de 100 pays différents, donc c'est en soi déjà extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'aller du coup 4 fois à Olympie depuis. Où on entend des conférences, on réfléchit en petits groupes, on produit des documents de recommandations. Enfin, c'est vraiment un temps extraordinaire, surtout que ça ne manque pas de charme là-bas. Et donc, pour le coup, je suis investie à cette académie, dans cette académie chargée de mission sur culture et éducation. Ça m'amène à voir ce qu'on peut faire avec les écoles. Il y a des camps olympiques de la jeunesse, des choses comme ça qui se mettent en place. Et on avait fait des ateliers sur le dopage, des réflexions avec les enfants. Qui du coup ne sont pas rapportés ni à l'Église ni à la foi, mais qui prennent du sens par rapport à l'homme d'une façon plus large et à son respect de son intégrité. Donc là, je voulais vous parler dans mon engagement, ça, d'un séminaire, et c'est un petit peu un appel aussi, parce que en entendant les deux témoignages déjà, je me dis qu'il y en a sûrement parmi vous qui seraient, ce serait bien que vous veniez vers moi. Nous organisons à l'Académie Olympique le 15 octobre prochain un séminaire sport et éthique où nous recensons les bonnes pratiques, autant sur ce qu'on appelle la sécurisation du parcours du sportif, donc de tout petit, comme nous l'éveil, quand on interdit les compétitions, jusqu'à la reconversion du sportif de haut niveau ou du sportif de moyen niveau, reconversion professionnelle, etc. Il y a un autre aspect qui traite de l'entourage du sportif, donc au CIO, ça s'appelle la commission de l'entourage olympique. Donc le coach, le psychologue, le diététicien, les parents, tout ce qui entoure l'athlète de haut niveau. Donc on recueille aussi les bonnes pratiques sur les initiatives sur le territoire français qui ont pu être menées. Donc je pensais par exemple à Aix, quand vous parliez d'un endroit privilégié où on a l'air de former des gens debout, c'est-à-dire pas des machines à gagner une médaille et puis à s'écrouler derrière. J'ai l'impression, enfin, ce que je ressentais. J'ai eu un témoignage par exemple sur l'aviron où un jeune DTN me disait il a parlé d'expérience avec l'OFA, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qu'un entraîneur national fasse des échanges avec des Allemands dans le cadre de l'OFA, c'est un petit peu interpellant parce que s'il prend le temps d'aller faire des échanges avec les Allemands, c'est qu'il a quelque chose quand même derrière la tête. Et effectivement, en creusant un petit peu, Pascal Morel, pour ne pas le citer, il avait en charge les espoirs pour Rio 2016. Il veut former des hommes debout, des garçons debout, qui aient la tête sur les épaules. Bon, bah, quand on entend ça dans le milieu sportif de haut niveau, ça fait plaisir. Hein. Je ne dis pas que les autres ne veulent pas, mais en fait, la médaille prime avant l'individu. Donc, voilà, on recense ce genre de bonnes pratiques qui font que, effectivement, le résultat va être important à un moment donné, mais que c'est pas le seul objectif. Et la dernière entrée de ce séminaire sport éthique, c'est une entrée sur les bonnes, enfin tout ce qui est prix, écriture de chartes, stimulation quelconque en fait d'une institution pour valoriser une bonne pratique. Hein, donc il y a des choses qui se font. Je pense à l'Association française pour un sport sans violence et pour le fair play, qui depuis 30 ans est sur la place, qui organise des émulations quelconques, hein, j'allais dire, hein, des prix, toutes sortes de choses, et qu'on voudrait aussi rappeler pour ceux qui existent depuis longtemps ou mettre en valeur pour ceux qui ont été créés il y a peu de temps. Voilà, donc là, déjà, derrière, il y a un appel à vos contributions, hein, c'est-à-dire que je pense que parmi vous, il y a peut-être des gens qui idées de bonnes pratiques qui se font. On m'a parlé par exemple d'une expérience de formation des parents des sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que les parents sont accueillis, sont avertis, sensibilisés, informés d'un certain nombre de choses. Donc ça, c'est le travail sur l'entourage du sportif. Voilà. Je dois dire que pour finir sur, j'espère, enfin, un propos négatif, mais à l'Académie nationale olympique, on est un petit peu, je peux le dire ici, je le dis d'ailleurs souvent et partout, on est un peu les enfants de cœur hein, du mouvement sportif, parce que on est des gentils, hein, comme à l'Académie internationale olympique par rapport au CIO, on est gentils, on s'occupe, tant qu'on ne fait pas de bruit, ça va bien, il ne faudrait pas qu'on ait quand même des revendications trop fortes. Hein, donc on nous entend, on accepte qu'on soit là, mais bref. À l'Académie olympique, on a vraiment le sentiment qu'on est des braves gens qui s'occupent un petit peu de sauver les valeurs de l'olympisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer par le sport de haut niveau pour sensibiliser les fédérations et les pôles espoirs, etc. C'est-à-dire sensibiliser le mouvement olympique à la primauté de l'homme sur le résultat de la compétition. Comme affaire, mais quand on s'y penche, évidemment. C'est, voilà. Bah, j'aurai le temps de m'y coller, de m'y casser les dents, j'apprendrai, c'est pas grave. Évidemment, c'est pas. Voilà, c'est gentillé, quoi. Hein. On est des gentils. Hein. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai. Alors, pour finir, justement, c'est que on a le sentiment vraiment que. J'ai le sentiment, pour être plus clair, que le sport, notamment au niveau du mouvement olympique, j'espère que je choquerai personne, mais. Les fédérations olympiques se sont un petit peu refermées autour de leurs prérogatives, celles qui leur sont confiées par le CIO et par l'État, de sorte que le sport ne semble n'appartenir qu'à elles, hein, et qu'aux fédérations olympiques. du coup, on est dans une grande difficulté quand on est dans un mouvement autre qui veut faire du sport. J'entends par là que la musique ou l'art ou l'éducation populaire n'ont pas été aussi bien institutionnalisées par le haut, par le CIO, par les CNO, par les fédés internationales, les fédés nationales, les fédés régionales, etc. Et le sport est tellement quadrillé, je dirais, que il semble laisser peu de place aux initiatives pourtant qui sont foisonnantes, et moi j'alerterai le comité olympique là-dessus, c'est-à-dire que on a l'impression que le sport appartient au monde olympique, alors qu'en fait le sport n'appartient à personne et qu'il s'organise de partout ailleurs. Hein, c'est-à-dire, vous entendez bien les grands rassemblements Coca-Cola, Red Bull, etc., qui rassemblent des centaines de milliers de pratiquants sportifs qui boivent des trucs pas bons pour eux, mais c'est pas grave. Mais je veux dire par là que le sport échappe au mouvement olympique qui, me paraît, ça n'engage que moi, se recroqueviller autour de prérogatives, alors de sorte que les modalités de reconnaissance des fédérations qui sont édictées par la charte olympique donnent le plein pouvoir, majorité des pouvoirs aux fédérations olympiques, ce qui laisse peu de place à des mouvements historiques comme la FSCF ou d'autres mouvements qui naissent. Il y avait le groupe des 20, vous avez tous entendu parler, les Assises nationales du sport, etc., qui sont des gens qui ne se retrouvent pas dans le mouvement olympique, parce qu'ils n'ont pas leur place ou parce qu'ils ne sont carrément pas acceptés. Je pense à Léo Lagrange, je pense à tout ce que font les maisons de les maisons pour tous, les maisons de jeunesse et de culture, etc. Tous ces gens-là font du sport, on est d'accord. Hein, dans les maisons pour tous, en tout cas moi pour ce que j'en connais, il y a énormément d'endroits où on fait du sport et les enfants n'ont pas forcément de licence à la fédération non délégataire. Bref. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai et qui me laisse à penser que c'est peut-être pour ça que l'Église peine à investir, ce monde du sport dans lequel elle n'est pas forcément la bienvenue, si ce n'est qu'en moralisatrice, rédemptrice ou quelque chose comme ça, mais sûrement pas organisateur. J'ai l'impression que ça reste un petit peu une sorte de chasse gardée, de territoire gardé. Et la position de la FSCF est difficile aussi dans ce cadre-là, peut-être plus qu'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec Pascal. Autant le Secours catholique, le scoutisme, etc., sont reconnus pour leur affinité ou leur origine et leur mouvement catholique, autant la FSCF dans le monde du sport pourrait, par exemple, être mise au banc du comité olympique parce qu'elle est catholique. Donc c'est difficile aussi de jouer le jeu du sport et le jeu de la reconnaissance par l'État de l'agrément jeunesse, sport, éducation populaire, BAFA. Alors que des BAFA, il y en a qui sont catholiques, enfin je veux dire qui sont portés par des institutions catholiques. C'est difficile de jouer ce jeu-là et de jouer à la fois le jeu de l'Église qui, hormis, j'allais dire, le cercle qu'on forme et les amis, n'apporte que quelques tapes dans le dos, je dirais, et pas non plus beaucoup de moyens ou de facilités. C'est-à-dire que ça renvoie, c'est pas beaucoup plus facile si on n'était plus aidé par l'État de continuer à fonctionner. Donc voilà, ce sont des petites choses qui me questionnent aujourd'hui. Je pense que le monde du sport pourrait avoir une vision un petit peu plus large qui permettrait aux différents mouvements d'exister, de rendre compte de ce qu'il faut. Je pense aux initiatives de l'Agence pour l'éducation par le sport, qui se sont organisés en marge du comité olympique auprès des collectivités territoriales et des mairies, des conseils généraux, etc., qui mènent un travail en soi, je dirais, qualité, et qui s'est inscrit en dehors des cadres parce qu'ils n'ont pas pu ou pas su trouver la place ou pas su convaincre les dirigeants en place. Voilà, donc je prône une ouverture du mouvement sportif parce que à terme, j'ai l'impression que c'est plutôt la forme d'asphyxie, d'autosatisfaction, un petit peu inquiète. Et si j'ai la chance d'intervenir au niveau du mouvement olympique, c'est un peu le discours que je tiendrai. Voilà, j'ai pas été trop long.
Ah non.
Donc, de ce que j'ai entendu, pour moi, on est bien là dans la mise en réseau des acteurs et des systèmes, et quelquefois des acteurs qu'on ne connaissait pas forcément au départ, ou de nouveaux systèmes qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'était un peu le sens hein, de la proposition d'intervention de Laurence. Et donc, je vous invite, pour ceux qui sont des experts dans le double jeu, de réagir par rapport aux invitations de Laurence, voilà, quand quelqu'un comme Laurence vous invite à pas rentrer mais à collaborer. Voilà, quelle réponse vous pouvez lui proposer de...
Dernier point, il me semble, je ne sais pas, je me poserai la question, l'État est, je dirais plus, à l'église, ou bien tout simplement à une certaine vision du sport qui est une vision qui est confiée aux fédérations délégataires et non plus aux fédérations affinitaires. Parce que, j'en veux pour preuve, quand je rencontre des responsables de l'UFOLEP, Union fédérale des œuvres laïques, qui a une philosophie aussi du sport qui rejoint sur certains points la nôtre, sans la vision globale de l'homme, mais ils font la même constatation en disant nous ne sommes pas suffisamment reconnus par l'État. Ils ont été d'ailleurs beaucoup plus que nous, à une certaine époque. Mais à l'heure actuelle, depuis quelques années, il faut reconnaître que les fédérations délégataires ont pris le pas sur les fédérations affinitaires. Alors, maintenant, ça ne résout pas la question de dire comment l'Église, elle peut être davantage reconnue à travers certaines pensées.
Dans notre monde politique actuel, par la sacro-sainte actuelle chose de la laïcité. On n'entend que ça. Vous montez des statuts, même si on veut être adhérent à la SFR, je pas envie de le dire, quand on nous a regardé nos statuts au RIS, on a dit, vous ne pouvez pas laisser ça, il faut parler de laïcité. Pas plus positionner. Quoi. Faut le dire.
Sur ce point de la laïcité, une note intéressante que je perçois, je pressens, laïcité au membre défini, du coup, on vise les revendications de type laïcité ou laïcité. Mon avis qui montait sur les.
On est dans, aujourd'hui dans un principe de laïcité idéologique qui ne correspond pas du tout au nom.
Et donc, c'est la mouille.
Voilà, justement, je suis d'accord.
On va pas parler. Et qui ne va pas pouvoir tenir longtemps.
C'est la mauvaise. Sur le secours catholique, il a catholique dans son nom, mais là, on ne fait pas de problème de
laïcité. C'est la mauvaise.
Oui. Tu peux pas avoir de numéro.
C'est pas catholique
qu'il faut
apprendre.
Tu peux avoir de numéro à jeunesse et les sports si on veut taper. Ah, tu as. C'est tout récent.
C'est évident, ce sont des secteurs de concurrence, je suis bien d'accord. C'est-à-dire, c'est là où il y a la difficulté de l'existence de l'autre, c'est quand on est sur des plates-bandes, dont visiblement on marche sur les plates-bandes de quelqu'un. C'est-à-dire que tant qu'on fait, comme disait mon président Jean Wenzel avant que Christian Babonneau ne remplace, il disait tant qu'on fait du bilboquet, ça va, mais quand on fait du judo ou de la gymnastique, il y a des grandes difficultés. La loi de 2003 sur le sport prévoit la possibilité pour les fédérations délégataires qu'elles réclament de leurs associations qu'elles licencient tous leurs membres. Ça veut dire qu'une association qui a 300 personnes, la fédération de gym peut dire il faut vous licencier vos 300 personnes. Donc ça a un coût exorbitant pour les associations, mais non seulement ça fait taire, ça fait s'éteindre un type d'organisation multisport qui était le patronage, qui permettait la pratique de plusieurs activités. Et là, si chacune des fédérations délégataires appliquait la loi et que chacune exige que tous les membres du club s'affilient, vous auriez parmi les 300 5 tireurs à l'arc, eh bien, il faudrait que les 300 prennent une licence au tir à l'arc et les 300 à la gym et les 300 au basket et les 300. Donc c'est un non-sens. Et ça fait s'éteindre un modèle. Et c'est ça qui pour ça, c'est moi, je trouve que c'est ça le plus grave. Ça fait s'éteindre un type d'approche multi-activité et donc d'une approche globale, encore une fois, parce qu'on sectorise et on perfectionne les gens dans une spécialité. Et c'est tout à fait dommage. Et alors il y a tout un tas de choses derrière qui sont par exemple le certificat médical, hein, qui sont un certain nombre de règles obligatoires qui rendent les choses plus difficiles, mais qui ont vu s'éteindre tout un tas d'opportunités de former les gens. Et je repense au scoutisme parce qu'on a juste évoqué ça un petit peu, mais à la notion d'incertitude de risque. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'incertitude et de risque parce que ça nous est interdit, parce que la législation nous interdit. Et du coup, on forme des gamins à quoi ? Est-ce qu'ils sont en capacité de s'adapter à une situation inattendue ? Ben non, parce que toutes les situations sont attendues. Enfin bref, on est un petit peu dans ce cadre-là qui fait qu'on réduit la marge, l'opportunité de former des hommes complets, et c'est vraiment dommage. Je voulais revenir juste sur un truc, sur le changement de statut de la FSCF, dans un temps où on a failli être sorti, pas très vieux, dernière mandature, du comité olympique. La fédération a fait voter un changement de l'article 1 de ses statuts pour écrire un article 1 bis. Ce qui a été décidé, c'est de ne pas transformer l'article 1, qui est historique, qui fait référence à la foi chrétienne, et la meilleure proposition qui a été faite et qui a été adoptée, c'est celle d'un article 1 bis qui actualise l'article 1 pour prendre en compte l'aspect humaniste plus large et l'accueil de tous sans prosélytisme, etc. Et qui répond à ces exigences. Je veux dire, quand on est sur la convention d'objectifs qui est lourde, qui est portée en général par la direction technique nationale, qui sont l'État, quoi, finalement, quand vous avez des objectifs qui sont un petit peu pas trop sportifs, ça a du mal à passer. Mais à côté de ça, quand on a des objectifs de formation, d'éveil aux responsabilités chez les jeunes, on parlera peut-être demain, d'éveil aux responsabilités, ils sont bien contents, parce que quand on forme des gamins de 14 à 16 ans sur de l'éveil aux responsabilités, là, on nous dit rien, hein. Du coup, parce qu'on sait bien comment le vivier catholique a fourni à la France, sans manquer de modestie, beaucoup de cadres et de gens qui ont pris des responsabilités. Voilà. Et puis enfin, sur le mouvement olympique et l'État, je pense qu'il faut aussi, les relations mouvement olympique et État sont aussi difficiles parce que le mouvement olympique est fermé un petit peu, alors que l'État a quand même, à mon avis, une dimension, une acceptation beaucoup plus large du sport. Clébin va témoigner au colloque sport éthique.
Je sais pas.
Non, mais éventuellement.
Juste à partir de nouvelles-là, alors.
Non, est-ce qu'il y aurait une bonne pratique qui soit suffisamment visible pour qu'elle puisse faire des petits et qu'elle puisse être appliquée ailleurs? J'ai une démarche particulière avec les jeunes. Bon, on en reparlera éventuellement, je crois, ou à table. Ou...
Voilà, donc quelques enjeux présentés par Laurence. Est-ce que ça réveille chez vous d'autres enjeux qui... Bon, vous l'avez mentionné, c'est tout à l'heure. T'as pas l'impression de te trouver entre deux monstres?
Oui. Quand on choisit un endroit pour s'asseoir, ou quand on rentre dans un parti, je trouve que c'est assez facile, finalement. J'aime beaucoup être au milieu, et c'est très désagréable. Non, mais je trouve qu'il y a un vrai challenge à faire le lien entre les gens, et c'est absolument passionnant, c'est fatigant, mais c'est beaucoup plus engageant que de militer pour avec des gens qui sont convaincus comme nous, quoi. Donc, je suis aussi, mon mari est commerçant et je suis fonctionnaire, donc je peux vous dire que là aussi c'est bien. Je suis fonctionnaire dans une université laïque et j'ai mes enfants dans le privé. Enfin, je veux dire, tout ça nourrit les personnes de la différence, et vous en disiez état tout à l'heure. La différence est formatrice. Parce que sinon, on se complaît, c'est de la consanguinité, on se complaît entre nous et on ne parle pas. Donc,
dans la réduction d'un être ou de l'être à quelque chose de très ténu, alors que l'être intégral, la personne humaine, et puis l'aspiration qui est en vous, la multiplicité, la diversité qui est, est-ce que quand vous voyez, quand vous notez cette tension et cette opposition, et peut-être un but de plus en plus à l'univers, parce qu'on peut peut-être réduire quelle discipline, et puis il devient un camp de devenir dans une autre, enfin on voit bien que la personne, elle a toujours besoin.
Alors, il y a déjà des attitudes un petit peu quotidiennes, comme vous en avez tous les uns les autres, je pense, c'est-à-dire de regarder l'autre pas par ce qu'on voit uniquement, c'est-à-dire qu'en général, quand je dis que des fois je parle aux étudiants et que je parle en fait à des jeunes, donc c'est plus mes étudiants, je leur dis souvent, vous êtes sûrement autre chose que ce que je vois derrière une table, hein, c'est à reconnaître qu'ils sont une autre dimension que ce qu'on voit. Et souvent, ça les valorise parce qu'effectivement, ils sont par exemple adeptes d'une musique, ils sont, des fois je les vois jouer dans un groupe, je sais pas, je vois la fête de la musique, je dis « Oh, tu fais de la batterie, tu savais pas !» Et donc, valoriser ça, les sortir de la dimension sur laquelle je les vois, enfin là, les étudiants au quotidien, parce que ça c'est mon travail. Après, je dirais que j'ai ou la chance ou le handicap de pas avoir, par exemple, à préparer un sportif de haut niveau. Parce qu'il me semble que là... la question se poserait peut-être autrement, parce que effectivement, à un moment donné, pour être efficace, il va falloir passer par un entraînement intensif, etc. Et je n'ai pas cette pratique-là. Moi, dans les pratiques que j'ai eues dans mon club, au niveau des gymnastes, on avait une approche qui permettait que, par exemple, nos sorties de compétition soient des sorties culturelles. À la FSCF, c'est quand même plutôt une tradition que d'aller visiter, d'aller faire un tour pour voir quelque chose, de profiter de l'événement pour faire un peu plus que simplement la compétition. Et aujourd'hui, par exemple, autour des compétitions, il se développe quelque chose, il me semble, d'assez novateur, notamment dans le 44. Ça fait à peu près 10-15 ans que ça boue, mais là, ça sort bien. On faisait faire des dessins aux enfants en marge dans les tribunes, mais aujourd'hui, ils se préparent de vrais espaces de convivialité autour de la compétition pour éviter que la compétition soit que ça. Et donc, on occupe, ça va au-delà, parce que justement, ça doit dépasser l'occupationnel, les parents, les frères et sœurs. Je pense qu'on a aussi une grande dimension à prendre du côté des juges. C'est-à-dire que ben, moi, je me sens concernée quand je suis là. Ben, j'ai mon mari et mes deux enfants qui sont tout seuls à la maison. Enfin, tout seuls, en tout cas, j'y suis pas. C'est l'engagement des bénévoles. Et je pense que si on peine à trouver des bénévoles, il faut aussi savoir reconnaître leur engagement et, entre guillemets, le sacrifice qu'ils font pour leur famille, parce qu'il y a quand même beaucoup de célibataires qui sont engagés dans le milieu associatif, parce qu'ils peuvent, ou en tout cas, je sais pas. Mais du côté de ceux qui sont pas seuls, en tout cas dans leur vie familiale, je trouve que le mouvement sportif en général, et je crois que la FSCF doit le faire plus qu'une autre, s'occuper dignement du reste de la famille. Pas, voilà. Le 29 juin, je vais à Lyon, on a un comité directeur, j'ai mes deux enfants parce que j'étais sur la route des vacances, j'ai dit, j'ai deux enfants, donc vous me les occupez et vous ne faites pas des coloriages. Donc, voilà. Et là, j'ai un niveau d'exigence parce que ils ont 11 ans et 7 ans, que je suis tout le temps barrée et qu'ils sont là et je veux qu'on s'en occupe correctement. Donc voilà, et s'il faut payer, on payera. Mais alors, tant que j'étais dans une position, moi, de demandeur, on est toujours un peu plus gêné quand c'est soi, mais quand c'est autour, on le voit d'autant plus fort et ça, c'est pas normal. Donc quand il y a des juges, par exemple, qui sont toute la journée sur le terrain et que les gosses courent dans les tribunes et qu'à un moment donné, vous ne savez pas où est votre gamin, parce que ça arrive à tout le monde, dites, mais il est où ? Ah là, ça fait une heure que je ne vois plus, les grosses suées. Voilà, je me rappelle d'une histoire dramatique où le petit est allé sur la plage et le vent l'a emmené dans l'eau pendant que la maman était à une réunion de parents d'élèves. Et le gamin, il est mort noyé. C'était, pour moi, c'était dramatique et je me suis dit, mais cette dame, elle donne du temps pour les autres, elle a laissé son gamin et son gamin, il s'est noyé. Bon, au-delà de l'aspect dramatique, on ne peut pas demander des bénévoles et en même temps ne pas envisager, comme on ne peut pas demander à une personne qui investit de quitter. Une main devant, une main derrière, comme on dit, un jeune de s'engager sans savoir. Enfin, je veux dire, il faut vraiment préparer ça. Et ça, c'est du respect de l'être humain. C'est-à-dire que pour moi, ça se manifeste par des inventions, quelque chose qui soit un petit peu ingénieux pour prévoir la place de l'homme entier. Et ça, c'est aussi dans toutes ces dimensions. Alors, je le ressens peut-être plus parce que je suis concernée, mais c'est absolument insoluble. Hein. Et puis, on a des divorces, on a des... Voilà, dans l'engagement associatif, on n'a pas que des belles choses et il faut le savoir. Donc, voilà, la FSCF devrait peut-être plus qu'une autre s'y intéresser. Et c'est en marche, c'est mis en marche. Ça va bien.
Je suis trop longue. Si j'osais, je n'ose pas, hein, je poserais la question au sein de l'homme entier, comment gérer simultanément le diabolique et le symbolique. De l'homme entier.
Ah.
Alors je précise, hein, j'utilise des mots. Bon, hein, c'est-à-dire comment gérer ce qui divise et en même temps ce qui va réunir. Quoi, parce que diabolique, bon, ça a aussi ce sens. Hein. Voilà, mais je n'ai pas osé vous le proposer. Vous n'avez rien entendu. Remarque pour Laurence avant d'écouter un. qui a œuvré pour le rugby dans le département du Nord.
Propre volonté.
Voilà, mais comme a dit René tout à l'heure, donc François a été kidnappé par le rugby.
Son corps défendant.
Son corps défendant.
Et il l'a fui dès qu'il a pu.
Laurence, merci.
Merci Laurence.
Et donc tu proposes de transmettre le témoin.
Je pense que la présentation que vous aviez faite dans, tout à l'heure du colloque, du congrès, on ne sait pas de quel côté on va retomber. Je ne vais pas vous citer avec précision, mais je m'y retrouve bien parce que Gilles ne m'a absolument pas donné le mode d'emploi de ce qui allait se dérouler. C'était une table ronde, bon. Et je ne savais vraiment pas vraiment. Il m'avait un peu balisé. Il m'avait dit, bon, tu sois là et là en même temps, bon.
Et je n'ai moi, pas... mais double jeu,
voilà. Et le double jeu, avant de poursuivre, donc je n'ai pas... J'ai une feuille sous les yeux qui sera un texte pour un colloque futur sur cette question du sport catholique, dont le titre devrait rassurer toutes celles et tous ceux qui se posaient des questions tout à l'heure, le sport catholique, mythe, réalité et perspective. Strasbourg dans quelques semaines. Donc, je vais supprimer ce texte, je vais le laisser à la marge, parce que l'idée de table ronde, c'était un peu l'échange avant le propos permanent. Néanmoins, j'insisterai, avant d'avoir l'autorisation de parler ici dans ces murs, l'endroit d'où on parle. Et en permanence chez moi, c'est à la fois le prof de gym, que me porte le statut, dans un établissement de l'enseignement privé catholique sous contrat particulier, parce qu'il est à Saint-Germain-en-Laye, banlieue chic parisienne, et on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est mon lieu où les 17 heures de prof de gym s'exercent, à la fois en collège et en lycée. Et l'autre jeu, c'est que le sport catholique est mon objet de recherche, c'est-à-dire les résumés, les colloques, les publications, les ouvrages, et cet objet de recherche, c'est le sport catholique. Le personnage central, c'est Mgr René Barbier de Lafère, personnage emblématique, théologien, sulpicien, prorecteur de l'Institut catholique de Paris sous Baudrillard, et qui a entre autres été la personnalité emblématique de Luxel, président, pionnier, j'ai envie de dire, véritable axe de lecture et axe de réflexion essentiel dans la première moitié du XXe siècle, sur Luxel. Mais je ne suis nullement affilié à Luxel, je n'ai aucun mandat associatif, aucun mandat syndical, aucun mandat politique. Luxel est pour moi un objet de recherche indirect, puisque De La Serre est un personnage qui, certes, a dirigé Luxel pendant plus de 30 ans, mais ne s'est pas exclusivement consacré à Luxel, même si... J'avais envie de préciser ces choses pour situer différence, une complémentarité avec Laurence, qui est, au-delà d'être une universitaire reconnue dans ce monde et sur cet objet sport catholique, est également militante, investie au sein de la FSCF, ce qui nous fait peut-être quelquefois des regards convergents ou divergents sur ces questions. Après cette présentation, j'ai essayé de prendre, d'entendre depuis tout à l'heure des mots, des phrases, des interrogations, des questionnements, et je vais essayer modestement, sans ordre préétabli, je ne sais même pas si j'aurai la prétention de tous les récupérer, des choses qui m'ont titillé et qui devaient sans doute me titiller aujourd'hui. Votre premier témoignage, je l'ai écouté avec passion et j'ai entendu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Et ces questionnements, c'était ceux de René Barbier de Lafère, au cœur des années 20, d'une certaine manière, 20-30, où il se posait ces questions, si on ne doit s'occuper que de sport, ça n'a aucun intérêt. Si on n'est pas capable de définir un sport catholique ou une éducation physique et sport catholique, Luxel n'a pas de sens et n'a pas d'existence. Je fais quelques citations sans les notes, mais c'est à sa réflexion profonde. Si on doit utiliser le sport à des fins d'éducation chrétienne, quel sport? Celui qui existe aujourd'hui, on était au soubresaut du professionnalisme, on était dans ce que vous aviez appelé le sport amateur, on pourra en débattre, mais déjà ce sport amateur avait-il une crédibilité? L'amateurisme marron, les arrangements avec les adversaires du jour sur des compétitions départementales, régionales, pas seulement sur le haut niveau. Aujourd'hui, la scène médiatique à profusion nous montre des images détestables des enjeux du sport professionnel, mais il suffit d'aller se promener, et je le fais encore à 57 ans, sur quelques courses cyclistes de niveau départemental 4. Rassurez-vous, il suffit de regarder les yeux de certains concurrents pour se douter que ce n'est pas à l'eau minérale qu'ils prenaient le départ de cette épreuve, où le seul enjeu était sans doute d'avoir deux lignes dans la gazette locale du Val d'Oise, mais ce sont des sportifs amateurs. Donc ces réflexions sur les dérives du sport existent, j'ai envie de dire, de manière concomitante avec l'apparition du sport. Le sport est cette espèce d'objet malléable, pluriel, qui sert à tout et qui sert à rien. Il n'y aurait pas une espèce de sport noble, valeureux, aux valeurs extraordinaires qui traverserait les siècles, et puis le sport livré au business, à l'argent sale, à la corruption. Non, le sport, il est l'image de la société. Il a servi les pires dictatures. Il était le symbole de la réussite d'une éducation dont on mesure encore, avec la chute du mur de Berlin, les procès, tant bien que mal aboutis, des ex-brillants produits de la société, des ex-républiques de l'ex-Union soviétique, et je n'irai pas plus loin. Donc le sport a servi toutes les causes, a servi tous les maux, a servi aussi peut-être tous les plaisirs tels que vous les évoquiez, des plaisirs simples d'un lieu où il y avait des convivialités, des relations, un investissement. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est moins le sport objet que l'action à un moment donné d'une femme ou d'un homme investi. C'est-à-dire la préoccupation à mes yeux, c'est pas la pastorale du sport. La pastorale du sport n'est ni plus ni moins que un soubresaut qui regroupe des passions. Vous étiez sans doute un passionné des pratiques athlétiques. Vous y avez mis tout votre être, toute votre envie. Vous avez créé des relations. Et j'étais très sensible aux doutes qui entouraient tout ceci. Mais c'est vous, c'est pas le sport ni l'athlétisme, c'est vous qui êtes la personne la plus importante. Et si, hasard ou nécessité ou esprit saint, vous vous étiez retrouvé dans un autre environnement, votre message aurait été tout aussi important, tout aussi explicite aujourd'hui, et vous auriez pu parler peut-être d'une autre aventure humaine. C'est-à-dire, attention de ne pas vouloir faire dire au sport ce qu'il ne pourra jamais dire. C'est la femme ou l'homme qui, à un moment donné, est en relation avec tel ou tel acteur, telle ou telle situation, telle ou telle réalité, sportive ou non, qui transmet son être et sa réalité du moment dans son passage ici-bas. Je pense que de votre intervention, je retrouvais mes vieux profs de gym. Parce que moi, je reviens à mon histoire de vie. Pur produit du Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait une sixième au collège de Marc, institution libre de Marc-en-Barœul. Quelle catastrophe, je crois qu'il ne devait pas avoir une note au-dessus de 5 ou 6 à l'issue des trimestres. Ça a été crise de famille. Qu'allons-nous faire de celui-là? N'imagine sans doute pas qu'un jour je soutiendrai une thèse, moi non plus d'ailleurs. Alors on l'a mis rapidement à l'école publique, au lycée Gambetta. La seule préoccupation de ma mère, c'était est-ce qu'il y a une aumônerie? Il y avait une aumônerie, Dieu existait, Dieu était dans l'établissement public, tout allait bien. Moi, Dieu, à l'époque, je ne savais pas trop ce qui allait m'arriver avec Dieu. Mais pour elle, elle était rassurée. Le lycée Gambetta, il était là à 500 mètres. Les enfants étaient encadrés, il y avait des garçons, ça allait de la 6e à la terminale. Et il y avait l'aumônerie, un aumônier extraordinaire. Et mes profs de gym, j'ai envie de dire, bon, nous avons une bonne dizaine d'années d'écart. Mais en vous écoutant tout à l'heure, je retrouvais mes profs de gym, de l'enseignement public, qui sont occupés de moi et qui m'ont fait faire tous les crosses. Vous imaginez bien, je suis en sixième en 1968. Vous imaginez de quel côté de la frontière ils se trouvent, ces profs de gym. Ils ne sont pas prêts à m'envoyer au séminaire. Ils ont peut-être eu tort, ils ont peut-être eu raison, je ne sais pas. Mais ils me disaient tout ce que vous disiez tout à l'heure. Ils m'ont fait faire tous les crosses. Le club, ce n'était pas Aix-en-Provence, c'était l'US Tourcoing. Et la SPTT Lille, c'était deux clubs emblématiques de l'athlétisme du Nord-Pas-de-Calais qui a produit aussi un certain nombre de champions des années 60. Et Et toutes les valeurs, je ne sais pas s'il les maîtrisait. Oui, Michel Bernard, bon, c'était Anzin pour Michel Bernard. Ces profs de gym, j'ai envie de dire, ils me parlaient comme vous deviez parler sans doute à certains de vos athlètes minimes, cadets, juniors. En avaient-ils une conscience de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils disaient? Quelle était leur préoccupation? Est-ce qu'ils avaient trouvé chez moi quelques talents, une capacité aérobie, comme il faudrait dire, qui allait me permettre de courir longtemps et vite? J'en sais rien. Ça a fini à l'UREPS de Lille. Tout simplement comme jeune étudiant en éducation physique. C'est pour moi encore une expression de hasard ou nécessité, et au-delà des engagements, des certitudes, des volontés, de la structuration, de l'institutionnalisation des choses, à un moment donné, il y a une relation entre des adolescents, plus ou moins jeunes, et des adultes présents qui ont un droit de parole. Et aujourd'hui, je vis, à 57 ans bientôt, vous imaginez, à Saint-Germain-en-Laye, la place de l'éducation physique et sportive, du moment que les notes ne descendent pas en dessous de 15 pour ne pas perturber la bonne scolarité du futur recrutement des classes d'élite, j'ennuie personne, quoi que je fasse. L'inspecteur, il est déjà venu 4 fois, il viendra sans doute pas 5 fois, tout va bien, les notes ont atteint le maximum, ça ne peut plus rien changer, quoi que je fasse. Les programmes sont de plus en plus illisibles de l'éducation physique. Mais j'existe là où je suis, et des enfants de la 6e à la terminale font des jeux avec moi. Alors ça ressemble un peu au football de temps en temps, ça peut ressembler à du rugby de temps en temps, on y met 3 ou 4 ballons. Mais je n'ai pas plus de certitude que vous non plus sur ce à quoi je sers, ce où je vais, m'y viennent. Et quelquefois dans cet établissement, il y a une pression considérable sur la réussite scolaire. Ce sont des consommateurs d'école. On met ses enfants à Saint-Germain-en-Laye tout simplement parce qu'il y a l'encadrement, certes, mais surtout parce que tous les concours d'accès aux grandes écoles vont être facilités. On assure 100% au baccalauréat, pas d'une classe d'âge qui entre en 6e, mais on affiche les 100%, à tort ou à raison. On affiche la réussite à toutes les grandes écoles de cadre que la nation produit. Alors vous imaginez bien dans ce contexte que l'éducation physique et sportive, qu'elle soit catholique, qu'elle soit de Luxel, qu'elle soit de je ne sais quelle fédération infinitaire, tout le monde s'en moque éperdument. Mais il y a un dénommé Hochepied qui est prof de gym. De temps en temps, il y a un élève qui dit « On a tapé sur Internet, on a vu votre nom, tiens, il paraît que vous écrivez des bouquins. » Ils seront vendus 1 euro, voire moins d'1 euro dans quelques années. Le mien non plus, on ne peut plus l'avoir. Prenez-le, c'est le dernier, les athlètes de Dieu, on a tout vendu, tant mieux. Donc, il dit « Ah, vous écrivez, c'est bien, prof de gym qui écrit. » Vous voyez, on en est en 2011. Et de la serre est décédé à peu près un peu avant les années 70. Et Dieu sait s'il y a dû avoir des réunions, des colloques, des commissions, pour que Luxel trouve encore une définition de l'éducation physique et sportive catholique, qu'elle n'a toujours pas trouvée, qu'elle ne trouvera sans doute jamais d'ailleurs, avec moi ou sans moi. Mais j'existe. J'existe et j'essaye de leur donner une trace, de les occuper. Alors pour eux, c'est un peu de défoulement parce qu'ils ont des DST tous les samedis matin, ils ont des DST tous les samedis après-midi. Ils arrivent à 9h moins le quart, s'ils ont quitté l'établissement à 19h, 19h30, parce qu'il y a des bilingues, des trilingues, il y a tout ce qu'on peut avoir en magasin, on l'a chez nous. Tout ce qu'il faut, les parents demandent, ils obtiennent. Bon, ça vit comme ça. Alors, l'éducation physique, c'est un lieu de parole. C'est un lieu surtout, c'est un lieu de parole. Ah ben oui, je suis pas sexologue, si vous saviez tout ce que j'entends. Mais je ne maîtrise pas, Moi, c'est cyclisme, rugby à l'origine. Alors vous dites, sexologie, je sais pas, mais ça existe. Je gère les téléphones portables. Ça, c'est la communication, il y en a de moins en moins, mais alors des portables, un sixième... alors je gère, ils m'apprennent de temps en temps aussi, je sers à ça. De temps en temps, il y a un incident parce qu'on a un espace qui est assez réduit, on fait ce qu'on peut, il n'y a pas de mètre carré disponible, donc on peut s'élever, mais à un moment donné, il y a des limites humaines à l'élévation, chez les laïcs. Donc on ne peut plus s'élever, donc on concentre tout et ça nous fait des cours de récréation où même à Saint-Germain-en-Laye, on est confronté à des expressions de violence physique et verbale, certes. c'est pas sevrant, mais ça s'exprime aussi, c'est une autre forme de vocabulaire, c'est sur les tenues. Et ben, le prof de gym, qu'est-ce qu'il peut faire? On a trouvé une idée extraordinaire en 2013, on va animer les cours de récréation. Vous vous rendez compte, de la serre, il est mort, animer les cours de récréation, quelle banalité, mais que peut faire l'enseignement catholique pour animer? Bon, on va donner des ballons. Donner des ballons, ça les calme toujours. Là aussi, qu'ils soient ronds, qu'ils rebondissent pas, ça calme. Alors on donne des ballons. Est-ce que je fais mission d'évangélisation? J'en sais toujours pas non plus. Je vous rassure, ce que je vous dis là, quand je vais à l'université, je leur parle. Alors il y a une introduction, un développement, une conclusion. Ne croyez pas que je suis aussi brouillon quand je vais de l'autre côté. Alors j'essaye de passer dans le double jeu. Quand je vais aller à Strasbourg, il y aura un début, un milieu, une fin structurée sur le sport catholique. Et si je leur raconte ce que je suis en train d'essayer de vous raconter, ils vont me prendre pour un cinglé. Mais pour l'instant, c'est une partie de mon quotidien. Je passe de cette réalité multiforme, et je pourrais vous donner une foultitude d'exemples, à une réflexion sur le sport catholique institutionnel. Donc, c'est à travers votre témoignage que je me suis dit, il faut que je puisse évoquer ça, parce que vous auriez pu être mon prof de gym à l'époque. Vous auriez pu être mon prof de gym. Je vous ai ressenti comme ça. Un autre élément que j'ai entendu tout à l'heure aussi, c'est le doute traversé. J'y ai répondu un peu. La deuxième aspect, c'est que le sport en 2013, lorsqu'on le met comme objet de réflexion au sein de l'Église catholique, il est à l'image de la situation de l'Église catholique. Je vous renvoie aux excellents ouvrages de René Raymond sur le christianisme en accusation. L'Église catholique a perdu aujourd'hui son prestige intellectuel, sa référence sur la scène politique, sur la scène littéraire. Le catholicisme est prétexte à toutes les plaisanteries qu'on ne supporterait pour aucune autre expression de religion incarnée ou non incarnée. Vis-à-vis du catholicisme, tout est possible dans le domaine de la caricature, dans le domaine de la plaisanterie, dans le domaine de la non-reconnaissance. Le catholicisme est en crise. Donc le sport catholique dans sa diversité ne peut pas ne pas être en crise également. Et il devra retrouver une place pour dire et éventuellement faire, mais dédire et défaire. Sur cet axe du dire, je pense que si l'objet de la pastorale du sport est au cœur de notre réflexion, il faudra distinguer, à mon avis, deux grands champs. Évangéliser les pratiques sportives dans leur diversité, parce qu'il n'y a pas un sport, il y a des sports et il y a des pratiques sportives. Il n'y a strictement aucun lien entre les demi-finales de Ligue des Champions auxquelles nous avons pu ou pas assister récemment et le football pratiqué, ça n'a rien à voir. C'est pas le même football, c'est pas le même sport, et il y a une diversité. Un championnat de national, c'est pas la Ligue des Champions, le tournoi de foot dans notre établissement, c'est pas le tournoi de l'UNSS, donc il y a déjà des sports identifiés, il n'y a déjà que du pluriel, et dans ces des sports, il y en a une foultitude qui existe ou qu'on est en train de créer. Donc, évangéliser les pratiques sportives, ce serait déjà qu'on retrouve une parole de qu'a à dire l'Église dans les revues, dans les textes, vous avez fait référence à des revues tout à l'heure, qu'est-ce que l'Église a à dire de la diversité de ses pratiques sportives dans les lieux où elles se pratiquent? Qu'est-ce que l'Église dit de l'amateurisme marron? Qu'est-ce que l'Église dit du dopage? Qu'est-ce que l'Église dit des transferts? Qu'est-ce que l'Église dit de l'exploitation de l'Afrique à des fins de recrutement de footballeurs? Qu'est-ce que l'Église dit de la manière de former des joueurs de rugby? Qu'est-ce que dit l'Église des chiffres ahurissants de traumatismes que le rugby produit aujourd'hui? Il faut être conscient, c'est pas la petite foulure, c'est pas la petite entorse. Est-ce que c'est encore un objet au service d'un projet d'évangélisation? Mais est-ce qu'on parle de ce rugby du top 14 ou est-ce qu'on parle d'un autre rugby? Et où est-il? Et là, qu'est-ce que dit l'Église de cette réalité? Les taux, l'accidentologie en rugby, c'est quand même quelque chose de... Je ne trouve pas de mots suffisants. Qu'est-ce que l'Église a à dire des politiques salariales? Je dirais dans toutes les diversités des pratiques sportives, où se trouve la parole de l'Église? Si elle veut, et quels sont les lieux dans lesquels elle peut dire? Eh bien, il y a matière pour sortir d'un certain angélisme, passez-moi l'expression, ou de certaines naïvetés autour de ces sports. Et le deuxième axe de travail, ce serait utiliser le et les sports à des fins d'évangélisation. Alors là, c'est autre chose. Et là, on retrouve qu'ont à dire les femmes et les hommes, où elles se situent dans leur parcours individuel, qui a du sens peut-être pour elles, dans les lieux où des pratiques corporelles existent. Et ça, c'est un autre travail. Et je pense qu'il faut tenir en synergie ces deux axes. Une parole de l'Église dans des lieux d'expression de pratiques diverses, variées, pour qu'on cesse de parler d'un sport unique qui n'existe nulle part, et qu'ont à dire des laïcs engagés, des laïcs investis, des hommes d'Église, dans les lieux où ils sont et où il existe également des pratiques corporelles dans leur diversité. Je pense qu'il faut tenir ces deux. Autre élément que je prends un peu au vol, et pardonnez-moi encore de l'absence de fil conducteur, c'est un peu dans l'éditation que j'avais au départ de ce qu'allait représenter cette table ronde. J'entendais tout à l'heure une réflexion institutionnelle, une autre porte d'entrée, l'institutionnel. L'institutionnel, j'ai envie de dire, pour moi, elle est déjà fermée, cette porte. Notre existence se suffit à elle-même, et dès qu'elle sera institutionnalisée, elle sera déjà renfermée, et une autre existence humaine avec des femmes et des hommes d'un ailleurs se construiront. L'UCSEL s'est créé en quittant la FSCF qui ne s'appelait pas la FSCF à l'époque. L'UCSEL a quitté la FSCF qui s'appelait la FGSPF, c'est un nouveau sigle, Fédération, tu m'interromps Laurent si je dis une bêtise, sur la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France. L'UCSEL est une émanation parce que l'UCSEL estimait qu'elle ne se retrouvait pas au sein de la structure primaire des patronages. Elle voulait s'intéresser à l'école de l'élite. L'UCSEL, à l'origine, c'est les établissements élitistes de l'enseignement catholique, les maisons d'éducation chrétienne sur le modèle anglais du sport élitiste, de l'éducation intégrale, où on cherchait à recruter corps, âme, éducation. La nation avait besoin de ses élites. Le modèle anglais du début du XXe représentait l'essence même de la réussite. Et l'UCSEL s'est construit pour offrir du sport dans cette formation d'une certaine élite. Et elle ne se retrouvait pas, et il n'y a rien de péjoratif, dans le modèle initial de la Fédération des Patronages qui était ancrée sur l'école primaire telle qu'elle était et telle existait à l'époque. C'était le primaire en opposition au secondaire et qui plus est au supérieur. Aujourd'hui, on a une espèce de filiation continue, mais à l'époque, c'était deux blocs qui n'avaient rien à se dire. Le bloc du primaire qui arrivait à son terme et le bloc du secondaire qui allait vers l'université sur un taux de réussite au baccalauréat qui était totalement dérisoire. L'UCSEL était au service de cette élite. Donc déjà, c'était l'offre éducative qui choisissait la prise de distance. La trace historique. Donc nous ici, on n'est pas institutionnalisé, on semble se rattacher à Clermont, on est rattaché au Vatican, on est rattaché à... Tant mieux. Dès qu'on va s'institutionnaliser, il y en a deux qui vont sortir et qui vont créer autre chose ailleurs. Donc ayons confiance, on existe comme ça à la marge. Les premiers résistants sont déjà parmi nous, qui estimeront qu'on est trop institutionnalisé. L'UCSEL, d'une certaine manière, est en ce moment, je pense, sur une... Je me suis surtout intéressé à l'UCSEL de la première moitié du XXe. Je lis ce qui se déroule à l'UCSEL aujourd'hui, j'écoute, j'essaye de comprendre. Je pense qu'ils sont dans une crise d'identité forte, une crise de reconnaissance, pour retrouver les problématiques de la serre. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour sortir d'un sport et des ornières d'un sport éducatif qui a perdu toute forme de crédibilité aujourd'hui. L'UCSEL s'est créé, de la Serre et ses collègues cherchaient à définir cette éducation physique et sportive catholique, ce sport catholique, mais en contrepartie, il fallait recruter. Il fallait recruter parce que, et on recrutait sur le modèle de la compétition sportive. On a occulté d'autres formes de pratiques corporelles qui auraient pu avoir un lien plus prégnant avec l'idée d'éducation chrétienne. Parce que le sport, c'est totalement antinomique, et je reviens à ce que vous disiez, aux origines, avec l'éducation chrétienne. Et vous avez très bien soulevé toutes les problématiques. La performance, le dépassement de soi, mais surtout le dépassement des autres. Toutes vos questions, j'y étais d'autant plus sensible que je les ressentais personnellement et qu'elles étaient, à travers le discours de Delasserre, au cœur de sa réflexion. Quelle éducation physique et sportive catholique on est capable de faire? Et à un moment donné, bon, je travaille sur ses archives, c'est son nom, ce sport. Luxel, aujourd'hui, et je vous dis, je ne juge pas, je ne suis ni militant ni acteur, mais simplement observateur. L'établissement scolaire dans lequel je suis, à la double affiliation UNSS-Luxel, ça gêne personne. Ça gêne personne. Il y aurait une troisième fédération, on inscrit, on met le bol, il faut payer 2 euros, 3 euros en plus, c'est pas grave, on a les moyens. Et les enfants peuvent aller faire des compétitions de natation ou de basket avec Luxel, mais ils peuvent très bien les faire à l'UNSS. Et les choix, c'est la notoriété de la compétition. C'est-à-dire la facilité, la notoriété. C'est-à-dire la facilité, si jamais on peut très bien partir relativement tôt et revenir relativement tôt, parce qu'il y a des établissements de proximité pour tel confort général de l'enseignant, de la direction des familles, on va aller dans le championnat de l'UNSS et on va aller faire du basket ou du volleyball. Parce que si on se met sur Luxel, on a 250 bornes à faire. C'est pas la même chose. Ça, c'est la première entrée. Deuxième type d'entrée, le niveau de la compétition. Ça, c'est une autre typologie de prof de gym. Combien de coupes on va pouvoir gagner? Parce que les deux fédérations sportives scolaires ont des liens endémiques avec les fédérations non affinitaires. Luxel signe des partenariats régionaux avec la Fédération française de rugby, avec la Fédération française de basketball. Les met sur le devant de la scène. C'est une excellente communication. Mais derrière ça, on retrouve le même modèle du championnat structuré, de la même élimination, des mêmes strates. Alors on essaye de trouver des subterfuges par moment, mais néanmoins, c'est le modèle identique de l'élimination. De l'élimination pour arriver à des championnats de France, dans différents sports institutionnalisés. Mais le modèle recherché, c'est celui de la fédération habilitée par l'État. Quelle spécificité, quelle différence, quelle originalité, quelle manière d'être aux différents. La question se pose. La question se pose, et elle se pose d'une manière très forte, pour éviter qu'on se retrouve avec des pastorales plaquées à côté et pas de lien fort avec les pratiques exposées et la vie des praticiens que je renvoie. Qu'est-ce que j'avais remarqué également sur les deux mots d'introduction de Gilles, optimisme et altruisme. Sur ces questions-là, on est sur un temps historique. Je renvoyais à René Raymond, je renvoyais aux incertitudes, je renvoyais aux questionnements, je renvoyais aux doutes. On est sur un temps historique faible, qui est dans l'histoire du catholicisme, un moment particulier. Toutes les religions n'ont pas ce développement à des vitesses identiques. On est sur un axe historique à un moment particulier. Donc acceptons de vivre avec ces doutes, acceptons de vivre avec ces tensions, acceptons de vivre avec ces réalités et ces difficultés. J'essayais d'y mettre de temps en temps, plus ou moins habilement, un peu d'humour sur ces réalités. C'est pour ne pas les dénoncer de manière abusive, en disant « moi j'ai les solutions et je ne les ai pas ». Mais il faut accepter ces tensions pour humblement essayer de les dépasser, ici et maintenant, à l'endroit où on nous donne la parole et à l'endroit où on peut se permettre de prendre la parole. On est sur un temps historique particulier. Et on ne peut pas savoir, et là, tout à l'heure vous aviez présenté dans votre présentation inaugurale, le lien avec la théologie. Je suis bien loin d'être théologien, j'ai lu tout ce qu'avait écrit de l'affaire à Saint-Sulpice sur ces questions, et il disait deux choses qui m'ont marqué, in fine, et en parlant justement des pratiques corporelles, accepter d'arriver perdant face à Dieu à la fin. Et le deuxième axe, c'était l'espérance eschatologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ici et maintenant la place que l'on joue dans le moment de l'histoire où on est, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on fait, si ça a du sens, et si c'est simplement le fruit du péché qui s'exprime à travers notre présence et notre histoire. Pour l'instant, on est dans ce temps historique de doutes, de questions, sans savoir. Mais je n'ai pas l'expertise et j'essaie simplement de reprendre les...
Je crois que c'est là qu'on a beaucoup bougé. Hein.
De l'affaire. Merci pour la qualité de votre écoute. Thank you.
Voilà, réaction en guise d'apéritif.
Moi, je me pose une question, c'est le pastoral du sport. On a même parlé de la pastorale du temps libre. Au nom de quoi j'ai le droit d'évangéliser? Qu'est-ce qu'il dit quand je marche, je marche, quand je mange, je mange, quand je prie, j'ai évangélisé?
Je n'en ai pas le droit, je ne m'en donne pas le droit. Je me donne simplement la difficulté chaque jour, quand je suis au contact, d'essayer d'être le plus authentique possible dans l'instant, dans, souvent maladroitement, de ressentir quelles vont être les... Oh, je suis totalement hors programme régulièrement, hein. Je ne les lis plus, je ne les comprends plus, je ne m'y intéresse plus.
Vous coupez la vidéo. Hein.
L'inspection est passée.
L'inspection est passée, mais je lui dis à l'inspecteur, c'est le privilège de l'âge, il faut bien que ça en ait un peu, on avance moins bien sur le vélo, mais on peut dire des choses qu'on n'oserait pas dire quand on est en PLC2, PLC3. Ou... Donc, j'ai envie de dire, moi j'essaye de faire ce que je peux, et l'expérience aidant de ressentir à un moment donné, parce que dans cet établissement, sur cette partie de ma vie, de la 6e à la terminale, mais on est face à de la diversité, il n'y a pas de règles, chaque jour est différent, chaque instant va être différent. Quelle prétention d'avoir un discours préétabli, prémonté, qui dirait, moi, là, je vais évangéliser avec cette classe de 6e orange tel jour dans telle activité. Je ne l'aurai pas, je ne l'aurai pas. Et on ne m'a pas encore donné de signe comme quoi, ce jour-là, quand je faisais ça, c'était ce qu'il fallait faire. Sur ces questions, j'entends. Pas sur l'inspection. Donc, je pense que la plus grande modestie, la plus grande humilité sur on ne sait pas, mais de temps en temps, on a des retours, pas toujours directs. On se dit, tiens, là, peut-être, peut-être. Donc, je crois, la plus grande humilité, surtout pas de discours d'intention, surtout pas de structuration. Je pense que là, c'est... J'en reviens à le début de mon propos. Des expériences humaines diverses, variées, en recherchant l'authenticité. Et en étant...
On pourrait faire.
Et je ne suis que laïque, en plus, donc vous imaginez bien. Donc, doublement d'humilité à ce niveau-là. Mais de temps en temps, on a un ressenti sur un mot, une phrase, un geste. Le geste sportif, je parlais du pluriel dans le sport. Quand il court... c'est pas sur le moteur qu'on va s'intéresser. Notre profession n'est pas sur le moteur. Elle se vend institutionnellement. Vous êtes des professionnels des actes, des apprentissages moteurs. Ça, c'est la plus grande des hypocrisies, la plus grande des illusions. Donc, mais on voit des choses qui passent par du moteur, mais dans sa diversité, dans sa variabilité, dans sa plasticité. On ne voit pas de sport dans un établissement scolaire. On voit des comportements moteurs qui témoignent des personnalités, on voit des émotions, mais on ne voit pas de pratique sportive. Moi, j'en ai jamais vu. C'est pas parce qu'il y a un ballon de basket qui rebondit. Je ne vois pas de basket. Je n'en vois jamais. Je ne vois jamais de rugby. Je vois, en plus avec la mixité, à tort ou à raison, ce serait un autre débat. Quand je vois mes adolescents de 6e, jeunes filles et jeunes garçons, je ne vois pas de sport. Je vois des garçons et des filles qui bougent, qui remuent, qui vivent. Mais il n'y a pas de sport à l'école. Il n'y en a pas. C'est une illusion. Il n'y a pas de sport. Il y a des mots du sport. Mais le sport n'existe pas à l'école. Celui-là, il n'existe pas. Je suis rassuré quand récemment, parce que je lis mon journal à scandale favori, rassurez-vous, c'est l'équipe, hein, je continue à lire mon journal à scandale favori, chaque jour c'est un roman d'aventure. Moi j'étais très content parce que avec mes collègues prof PS qui me prennent un peu pour un original, mais bon, ça va, j'ai des anciens étudiants donc ils respectent un peu les anciens quand même. Et les arbitres de handball, moi ça m'a rassuré parce qu'arbitrer le handball, il faut avoir envie, hein, de savoir s'il y a zone, s'il n'y a pas zone, s'il y a contact, s'il n'y a pas contact, 3 appuis, 4, 5, je ne sais jamais rien. Et il y avait un arbitre qui j'ai oublié son nom, mais qui disait de toutes les manières, au très haut niveau, il y a une grande tolérance qui est acceptée par tout le monde. Les joueurs sont très contents de pouvoir se dire que ça va être à l'appréciation de l'arbitre. Je retrouvais un petit peu l'appréciation de l'arbitre du rugby, d'ailleurs. Enfin, donc, ça m'a rassuré parce que sinon, l'éducation physique et sportive dans un établissement scolaire, on allait leur apprendre autant d'appui, pas tel appui, tel aspect du règlement. Non. Moi, je n'ai jamais su faire. Je ne sais toujours pas faire aujourd'hui. Il faut voir la motricité qui s'exprime dans un établissement scolaire. Ce n'est pas du sport, c'est autre chose. Donc, si moi, je fais une entrée sur le sport, je passe à côté. Il n'y a pas de sport à l'école. ça n'existe pas. Les panneaux, ils sont déjà pas à la bonne hauteur, les tailles sont différentes, les buts, on fait du football avec des buts qui s'improvisent, ça fonctionne toujours comme ça. Le rugby qu'on propose, j'ai pas d'herbe, on peut pas mettre, ça ne poussera pas, mais on fait du rugby. Mais un spécialiste du rugby ici, qui serait président d'une commission rugby à Luxelles, il m'étrangle, le spécialiste rugby de Luxelles, s'il voyait faire du rugby. Mais il n'est pas bien celui-là, c'est pas du rugby. Mais je mets des ballons ronds de temps en temps, ça m'arrange des ballons ronds. Et ça n'empêche pas de faire. Enfin, moi je m'amuse bien, eux ils n'ont pas. Dans les signes, quand je vois qu'on s'amuse bien tous ensemble, je me dis qu'on n'est peut-être pas loin d'un petit bonheur instantané, et puis on se contente de ça.
Oui, et on se contente. On a souvent coutume de dire d'ailleurs que il n'y a pas une manière catholique de faire de la gym, du football ou du rugby, une manière de considérer l'être humain. C'est ce que vous venez de dire à la place de rappeler ça.
La relation, les femmes et les hommes qui existent, et la relation. Alors, c'est le biais de pratique corporelle, parce que derrière, bien évidemment, si on mettait les mêmes enfants, la bonne question, on parlait des arts tout à l'heure. Alors, il est sûr que l'expertise, c'est l'expertise de l'éducateur, parce qu'il y a une certaine, et rassurez-vous, tout va bien, les filles ne gonflent pas, expertise qui me permet de broder, et que si vous me les confiez sur animation théâtrale, musique, je serais peut-être dans une autre difficulté, avec les mêmes et le même éducateur. Donc l'expertise, elle sert, mais pas pour l'utiliser où on pense qu'elle doit être utilisée. C'est pas ma connaissance de rugby qui m'aide à faire du rugby, même si.
Bon, il y a ça, je crois qu'il n'y a pas de manière catholique de faire du sport, parce que chaque catholique est un peu à côté des autres, ils n'auront pas la même manière. Donc, ça montre bien qu'il y en a pas. Mais par contre, par parler d'évangélisation, je crois que ça dépend beaucoup de ce qu'on a au cœur, ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir que si l'évangile me colle à la peau, ça ne veut surtout pas dire que je sais comment je vais faire. Je fais du sport, je fais du sport. Et donc, la manière dont moi, qui ne vaut absolument pas pour d'autres, de jouer faire du sport, ça va forcément, parce que j'essaie au moins d'être habité par l'évangile, marquer ma relation. Et donc il y aura des moments de, comment j'appellerais ça, explicites, de ce genre de réa, simplement je ferai. Et je crois que, parce que moi j'avais été choqué par le fait qu'on ait mis sport catholique, je le préfère, que celui qui vit la relation à l'exercice, que ce soit du sport, de l'hébreu ou de l'autre, eh bien, il va le faire parce que marqué de cet évangile, de cette bonne nouvelle à laquelle il croit. Mais il n'y a pas de, comment je dirais, il n'y a pas de coup de tampon catholique sur du rugby.
Totalement, mais c'était peut-être l'ai-je dit de manière maladroite ou pas suffisamment explicite. Je pense qu'il faut tenir les deux axes simultanément. Il faut tenir le discours de l'Église sur des pratiques sportives et corporelles. Là, il y a un travail sur le dire, c'est-à-dire l'ensemble des existences des pratiques corporelles. Ça, et c'est en ça que vous aviez parlé tout à l'heure, j'y ai travaillé un peu sur les discours des papes. C'est vrai que c'est toujours, Laurence l'a très bien souligné, c'est toujours lié à des événements nationaux ou internationaux, à l'occasion de manifestations. Il y a un propos circonstancié. Et quand on les met les uns à côté des autres, on en fait une lecture un peu systémique, on pourrait réussir à avoir une approche un peu globale. Le terme est peut-être maladroit, de la pensée officielle de l'Église. Mais néanmoins, les pratiques sportives ne sont pas figées, elles évoluent dans le temps et dans l'espace, donc ce discours doit être en permanence au suivi de ces actualités. Notre rugby d'aujourd'hui n'a strictement plus rien à voir avec, et toutes les pratiques corporelles, de nouvelles apparaissent, de nouvelles formes, et là, et dans leur diversité, pas dans leur singularité. Et là, je pense qu'il y a une absence peut-être de lieu d'expression, ou de personne pour en parler, mais il y a une absence d'un discours de l'Église sur cette diversité des pratiques corporelles, qu'elles soient sportives ou non. Et on pourra avoir un débat. C'est une chose. En revanche, ensuite, bien évidemment, l'éducateur, il est d'abord éducateur chrétien. il est d'abord éducateur chrétien. Ensuite, qu'il soit confronté à tel type d'adolescent dans tel type de pratique, ça n'est pas incompatible. J'arrive très bien à vivre ce double jeu. Je dis quand on me demande de dire et je fais quand on me demande de faire.
Mais
tout à fait. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de ce silence assourdissant qui avait été utilisé dans notre contexte sur la parole de l'Église, sur ses pratiques. Ça, on n'entend pas grand-chose, ou pas suffisamment. Alors,
à mon avis, il y a aussi le respect du
cimetière. Mais qui mériteraient d'être renforcés au regard de l'ensemble des dérives des différentes expressions du sport aujourd'hui, que ce soit en termes de spectacularisation extrême ou même des pratiques locales.